Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes au joie le lundi 14 février. Il est 8h30. C'est le grand retour des matinales, ça fait plaisir après un début d'année un peu chaotique, ça fait du bien de vous retrouver. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de local, bah il y en aura à 100% aujourd'hui du local. Tiens, et c'est le 14 juillet, ouais c'est super, c'est la fête nationale, je suis à fond. On est le 14 février, Valentin cherche sa Valentine, à la technique c'est Corto, salut.
Bah salut Ben, bonjour à tous, de retour dans la matinale, ça fait plaisir.
Ouais, ça fait du bien. T'as trouvé ta Valentine?
Et non.
Voilà, l'annonce est passée. Ellie est là aussi, notre stagiaire. Salut Ellie.
Salut, salut Ben, salut Corto.
Alors au programme de cette matinale, Philibert sera avec nous dans un instant. Philibert de Passe-Montagne, le foyer rural du pont de Montvert. Mardi au pont, il y a le spectacle Phèdre, point d'exclamation. C'est à la maison du Mont-Lozère. Et mercredi, ce sera à Mende, il viendra nous en parler. Et en deuxième partie d'émission, Ellie, justement, notre stagiaire, vous a rencontré au marché et il s'est intéressé à l'alimentation, c'est bien ça.
C'est ça, oui.
On écoute ça.
J'ai pris quelques recettes et j'ai demandé des conseils pour mieux consommer.
On écoutera ça en deuxième partie d'émission. Tiens, il y aura de la musique, comme d'hab, allez, une playlist spéciale Saint-Valentin aujourd'hui, mais en mode séparation et humour noir parce qu'on n'a rien à secouer de la Saint-Valentin. Content d'être de retour et on commence par l'édito Corto, si tu veux bien.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Depuis quelques mois, les citoyens...
Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Ah ouais, c'est reparti. C'est le démarrage pour tout le monde, tout va bien. Depuis quelques mois, les citoyens, citoyennes qui souhaiteraient s'informer sur le rôle de l'État dans le succès consolidé des exportations d'armes disposent d'un petit livre que j'ai lu qui s'appelle « Armes et peine de mort » qui a été écrit pour Amnesty International par Aymeric Éluin et Sébastien Font. Tenel, âme et peine de mort, vente d'armes, une honte française. Ce court et synthétique essai retrace et commente l'historique des ventes d'armes de fabrication française à des États dont les régimes ne respectent pas les droits humains. Ces auteurs donnent ainsi à lire une constante priorisation du commerce de matériel militaire par l'État français depuis les années 60, malgré le principe éthique international d'interdiction d'exportation de matériel de guerre à des régimes tyranniques et en faisant fi parfois des récentes mesures d'embargo sur les ventes d'armement édictées par les résolutions de l'ONU. C'est par exemple le cas, vous le savez sans doute, pour le conflit en cours depuis maintenant 7 ans au Yémen, pour lequel l'ONU a déclaré un embargo dès 2015 et dénoncé depuis lors des violations du droit international humanitaire perpétrées, je cite, de façon généralisée et systématique. En effet, aux côtés de celle du Royaume-Uni, l'industrie de l'armement française est la principale source d'équipement du Royaume théocratique d'Arabie Saoudite qui dirige la coalition militaire des pays du Golfe dans le conflit yéménite. En outre, parallèlement à ses livraisons de matériel militaire, l'État continue d'assister l'Arabie Saoudite dans le processus d'entretien et de maintenance de certains équipements vendus auparavant, comme c'est le cas des chars Leclerc équipés pour le combat urbain. De plus, l'ouvrage dénonce le manque de contrôle parlementaire sur le commerce d'armes et cet ouvrage s'affilie à la campagne d'Amnesty International France sur le sujet « Silence, on arme » dont la pétition qui est malheureusement terminée « Vente d'armes, stop à la complicité de la France » avait pratiquement recueilli 150 000 signatures la semaine dernière. L'enjeu pour Amnesty International France, c'est d'obtenir de l'État français qu'il mette fin à l'opacité qui entoure les transactions des groupes industriels français de l'armement. Il serait temps. Mais pour l'instant, personne ne semble s'y intéresser politiquement. La campagne présidentielle n'en parle pas du tout. Et tu m'étonnes, parce que l'industrie de l'armement représente un poids non négligeable dans l'économie nationale. Avec ses 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il représente environ 4% de l'emploi industriel français. Un chiffre qui s'élève à 7% dans certaines régions de France, selon le site du ministère de la Défense. Circuler, il n'y a rien à voir. Vente d'armes, une honte française, mon conseil de lecture du jour si le sujet vous intéresse et c'est absolument incroyable, voire même révoltant. Allez, on parle de Phèdre, point d'exclamation avec Philibert dans un instant. Autre chose, un peu de culture, ça fait du bien. Mais d'abord, Yves Jamais et sa déclaration d'humour. Ok, tu t'en vas.
Ok, tu t'en vas. C'est triste. Et ça m'ennuie.
Ok, tu t'en vas. C'est triste et ça m'ennuie. Tu me dis que je garde rien. C'est pour ça que tu te fais la paix. Oh, ok, tu t'en vas. C'est triste et ça m'ennuie. Mais si tu pouvais en partant descendre les poubelles, t'es sûr que t'oublies rien. Tu sais, ce serait dommage. Veux-tu un coup de main pour boucler tes bagages? Me fais pas ces yeux-là, on dirait que tu vas pas partir. Si tu penses revenir, passe au bureau de tabac. J'ai plus rien à fumer et je boirais bien un verre. Si tu venais à renouer, pense à ramener des bières. Ok, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Tu me dis que je rende rien et que c'est pour ça que tu te fais la belle. Ok, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Mais si tu pouvais en partant descendre les poubelles. Oh, cesse de te lamenter, sûr que t'as raison. Faut changer d'horizon, alors rase pas devant la télé. Elle. Tu me dis des mots amers, arrête, je t'en prie. Je te comprends aussi, c'est bientôt MacGyver. Ok, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Tu me dis que je gagne rien et que c'est pour ça que tu te fais la belle. Ok, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Mais si tu pouvais en partant descendre les poubelles. Je sais, c'est pas si facile les frais. Ça va te faire enricile, tu sais. Faut pas te faire de bile, jamais. Je n'oublierai cette idylle. Ok, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Tu me dis que je rende rien et que c'est pour ça que tu te fais la belle. Ok, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Mais si tu pouvais en partant descendre les poubelles. Si d'aventure un jour tu es seul et perdu, que tu aies fait le tour de trop de superflu, à l'instar d'une reine, je t'écrirai des vers. Si jamais tu ramènes du picon pour les bières. Ok, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Tu me dis que je rende rien et que c'est pour ça que tu te fais la belle. Ok, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Mais si tu pouvais en partant descendre les
poubelles.
Nous sommes ce matin avec Philibert, bonjour.
Bonjour.
Le spectacle Phèdre, point d'exclamation, c'est ce mardi 15 au Pont de Montvert. C'est coécrit par les Seines Croisées et le foyer rural Passe-Montagne du Pont de Montvert. Alors, et puis ce sera à Bande le lendemain aussi. Merci d'être avec nous. Évidemment, quand on pense Phèdre, on pense à l'œuvre de Racine plongée dans la mythologie et des amours incestueuses entre elle, Phèdre, et Hippolyte, fils de Thésée, dont Phèdre est la femme. Alors, déjà, faut qu'on comprenne, Philibert, il y a une relation entre Phèdre de Racine et Phèdre, mais il ne sera pas question de jouer Phèdre de Racine.
Ouais, c'est, quoique, je veux dire, il va se régaler. Romain, c'est un comédien, donc évidemment, ouais. On imagine qu'à un moment, il va nous livrer quelques petits passages comme ça, un petit peu délicieux, quoi, parce que c'est quand même le plaisir de la langue. Mais c'est une conférence détournée comme ça autour de Phèdre, quoi. En fait, ça raconte l'histoire déjà. L'écrivain, en fait, qui est metteur en scène, qui a écrit ce texte, en fait, c'est un amoureux de Racine et des Alexandrins, en fait. Comme moi, d'ailleurs. Moi, j'adore les Alexandrins.
On en reparlera. Voilà. Le metteur en scène et l'auteur du spectacle, c'est François Gremaud.
François Gremaud, ouais, c'est ça. Et en fait, qui dit tragédie, dit un peu couche de poussière, parce que déjà, ça a quand même été écrit dans une langue ancienne. C'est quand même très, très écrit. Et ça date du XVIIIe siècle. En général, ça parle de, ça fait référence à une période antique, donc on remet encore une couche de poussière, etc. Donc, il s'agit évidemment de dépoussiérer tout ça parce que il y a des gens qui l'aiment et puis que c'est un peu comme si on allait un moment jouer du classique dans une cour de HLM en disant bah voilà, c'est ça le classique. Et, Et voilà.
Faut savoir que Phèdre, c'est plus de 1600 alexandrins, il me semble. C'est quand même du gros costaud, quoi. On est
ouais,
dans le gros Racine, quoi.
Ouais, ouais, bah, ouais.
Et toi-même, t'es fan de Racine?
Bah, c'est-à-dire, en fait, moi, j'ai passé ma vie un peu dans les coulisses des théâtres, en fait, hein, puisque j'étais régisseur de compagnie, donc j'ai fait beaucoup de créations et de tournées en danse, en théâtre, et j'ai eu la chance de travailler avec une compagnie qui justement dépoussiérait le classique à l'époque, dans les années 90. Alors, il faudrait que les auditeurs un jour tapent Phèdre Sarah Bernard en recherche Google. Mm-hmm. Et ils le font en audio, enfin, ou en vidéo, en fait, en l'occurrence, mais c'est de l'audio. Et là, on mesure le temps parcouru, déjà, entre le début du XXe siècle, Sarah Bernard, et puis maintenant, parce qu'elle déclame, mais c'est absolument inaudible, enfin, c'est risible. C'est du comique, quoi, pur. elle, c'est complètement emphatique, etc. Et moi, je vais bosser avec une compagnie qui, justement, a travaillé sur rendre, ce qui n'était pas évident dans les années 90, la langue un peu plus coulante, un peu plus à réactualiser un peu la prononciation, tout simplement, et la diction, quoi, de ça, quoi. C'est-à-dire la dire comme je parle maintenant au micro, quoi, en fait, tout simplement. Et ça, il a fallu 200-300 ans pour y arriver, quoi.
Et toi-même, t'as bossé sur Bérénice. T'as une petite histoire là-dessus.
Ouais, il y a une histoire. En fait, c'est une histoire assez marrante. C'est que on avait créé avec cette compagnie Bérénice. En fait, donc, pour résumer très rapidement, Bérénice, ça se passe à l'époque romaine. Et Titus est futur empereur romain. Et Bérénice est reine de Palestine. Alors, voilà. Et puis, ils s'aiment. Comme dans toutes les tragédies, il y a une histoire d'amour derrière. Mais c'est un amour impossible pour la raison d'État, parce que dans l'Empire romain, on n'a pas le droit d'épouser une femme qui n'est pas romaine. Voilà. Et voilà. Et donc, cette pièce, elle avait été montée, on l'avait montée, et c'était une actrice beurrette, comme on disait à l'époque, quoi, d'origine maghrébine, qui jouait le rôle de Bérénice. Il y avait une palanquée de comédiens pas possible. Il y avait Denis Podalydès, des gens, etc. C'était vraiment tous des jeunes comédiens qui sortaient un peu des conservatoires et tout ça. Mmh. Et puis, ça a plu, et donc on a organisé une tournée au Moyen-Orient. On l'a créée à Alep, réadaptée dans une version très, très roots, où on jouait dehors avec des planches, tout ça. C'était toute une aventure, c'était vraiment sympa. Moi, j'ai bien connu Alep à cette époque-là. Mmh. Et puis, à un moment, dans la tournée, il y avait, au milieu, il y avait l'Égypte, il y avait donc la Syrie deux fois, il y avait Israël. Donc, on jouait à Tel Aviv, au Grand Théâtre. Bon, c'était pas très adapté au Grand Théâtre, puisqu'on jouait plutôt dehors. Mais Vlatipok, quand on arrive, les Israéliens, ils se remettent à bouquiner le texte, et là, ils percutent et ils voient Bérénice, reine de Palestine. Wow. Quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au XVIIIe siècle, on parle pas d'Israël, on parle de la Palestine.
De la Palestine.
Voilà. Et donc là-dessus, incident diplomatique. En plus, elle est jouée par une actrice qui était plutôt plus berbère d'ailleurs que arabe, mais en tout cas d'origine maghrébine. Et là, bon, incident diplomatique, on a failli pas jouer, en fait. Voilà, et bon, ça se passe, on joue quand même. Et puis, mais après, la réflexion, tu te dis, mais merde, putain, mais Corneille, enfin, pardon, Racine, c'est super politique, en fait. Hein, parce que ça parle d'une histoire l'Empire romain, c'est quoi ? C'est l'Occident, en fait. Hein, et dans l'Occident, t'as pas le droit de te marier. C'est toujours des rois et des reines, mais ça, on s'en fout. C'est le contexte de l'époque, ça sera toujours des rois, des reines, des dieux, des machins. T'as pas le droit de te marier avec une femme orientale, en fait. Hein. Mm. On est en plein dans l'apartheid, etc. Et on est au XVIIIe siècle. Quoi.
C'est quand même fou. Et comme ça fait encore écho au moment où vous avez joué Bérénice en Israël. Quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Incroyable.
Ah, cool.
Quelle histoire. Revenons à Phèdre, ouais, pour l'exclamation, ouais, quand même. Ouais. Puisque là, c'est aussi très actuel. Et qui est Mathias Brossard ?
Alors, Mathias Brossard, c'est toute une histoire, en fait. En fait, on est en... On a créé, je crois, le Passe-Montagne en 2001, en fait. Il y avait déjà un foyer rural un petit peu endormi sur le secteur qui existait depuis quelques années. que Babette et une copine avaient créé. Et puis, donc, on, voilà, moi, ça faisait un bouton que j'avais dans le coin, et puis je me suis installé là, et puis les copains me disaient, ouais, la salle, elle n'est pas insonorisée, on ne peut rien faire, etc. Donc, on a créé une asso, insonorisée la salle, et puis on s'est occupé un peu de créer un outil sur le pont de Montvert. Donc, en 2001, on a fait quelques concerts avec d'autres assos, puis finalement, on dit, allez, on fait la nôtre. On appelle ça Passe-Montagne, et c'est parti, mon kiki. Et en 2002, donc l'année d'après, on reçoit un Antigone au temple du pont de Montvert. Mais alors l'Antigone, vraiment réglé avec des combats, Antigone de très tôt, quoi. Vraiment, hein, le truc, vraiment, avec une compagnie qui marchait à pied, je me rappelle. Il venait de la banlieue parisienne, il marchait à pied, il y avait le matos qui suivait avec des techniciens, on a monté un décor pas possible dans le temple, il y avait des fumées, des combats, et puis c'était Antigone, quand même, ce mythe qui est extraordinaire de la mythologie. Et donc là-dessus, il y a donc à l'époque, c'est Ghislaine et Jean-Noël qui y vont avec leur gamin, Mathias, qui a 12 ans, et il sort de là en disant « Maman, c'est ça que je veux faire plus tard
». C'était il y a longtemps.
Ouais, c'était donc voilà, il avait 12 ans, c'était voilà. Et puis voilà, le Tipoc, bon, il va faire un espèce de un collège à Avignon et puis il revient à 15 ans. Donc ça devait être en 2005. Il avait monté un solo seul en scène de théâtre sur la folie. Et il vient nous jouer ça au pont. Et Vlatipak, bon, moi je fais la lumière. Il y a une copine qui était metteuse en scène, qui avait une maison sur le Mont Lozère, qui fait la mise en scène. Son père qui devient machinot en coulisses, parce qu'il y avait un quartier de barbac qui était lâché sur le plateau. Enfin bon, voilà, et tout le village regarde l'enfant qui revient et qui est acteur de théâtre déjà en puissance. Quoi. Il est collégien en fait, enfin lycéen. Il était en seconde, je crois. Voilà, après il monte à Paris, il fait les cours, ce qu'on appelle les cours hein, pour préparer les grandes écoles de théâtre, et là il réussit donc l'école de Lausanne, en fait la Manufacture, qui est une des écoles les plus avant-gardistes en fait des écoles de théâtre hein, francophones. Hein. Il fait cette école, voilà, et pendant ce temps-là, ils viennent nous jouer un Tartuffe, qu'on a joué chez moi en théâtre appart avec une bande de collègues. Voilà, ils nous jouent donc le retour de Mathias, toujours un petit peu plus nombreux. Hein, on remarque qu'il était tout d'abord tout seul. Après, ils reviennent à quatre nous faire un Tartuffe. Je crois que de mémoire, ils étaient quatre. Et puis, des années après, ils sortent de leur école, diplômés, etc. Et toute une bande de comédiens, comédiennes, de différentes promos, etc. Ils font un collectif et ils décident de monter Platonov, à Saint-Maurice de Ventalon. En version intégrale, qui est un bouquin pas possible qui a été retrouvé après la mort de son auteur. Et il décide de répéter ça. Alors, c'est très très long. Hein. Et donc, il décide de planifier ça sur 5 ans. Et pendant 5 ans, ils vont venir tous les étés répéter une partie de Platonov à l'œil. Dans la forêt, voilà. Et toute la population autour, elle commence à découvrir ça. Ouais, elle me rappelle, il y avait même des Jones qui étaient habités dans leur camion, des truckers. Là, ils habitaient leur camion à Saint-Maurice, etc. Et on leur dit, bah, vous venez voir, ouais. Oh, bah, ouais, je sais pas, à Platonov, voilà. Ouais. Et paf, ils vont voir ça et ils n'ont pas décollé du spectacle. Ils ont trouvé ça génial. Enfin, la population, tout le monde autour, on a tous suivi Platonov pendant des années. Et en 2000, je vais pas raconter de bêtises, en 2000, été 2020, ils ont donné l'intégrale, et l'intégrale, c'était une journée et demie de théâtre dans la forêt.
Quand même.
12 heures de spectacle.
12 heures.
Ouais. Donc, sur une journée et demie, ils l'ont fait deux fois, et bon, avec une petite buvette, tout ça, des petites grignotes, là, non, extraordinaire, quoi, extraordinaire. Vraiment, une expérience extraordinaire, c'est, on peut pas dire autrement, une utopie de pays, incroyable, quoi. C'est la comédie française qui descend dans les vallées, quoi, c'est génial.
C'est hein, génial. C'est, ouais. Et là, retour de Mathias Brossard, qui là, est à la Sista, de la mise en scène, mise en scène d'ailleurs, dont on a parlé, qui est faite par François Gremaud. Qui est Romain Darol?
Alors, Romain Darol, bah, c'est Platonov, justement. Voilà. C'est toujours une continuité d'histoire. Il jouait Platonov, et donc tout le monde le connaît on connaît comme acteur, quoi. En plus, c'est un théâtre de proximité dans la forêt, donc on a vraiment suivi de près, on le connaît bien, quoi, Romain. Et puis, donc, quand on apprend qu'il monte ce solo, on dit banco, vas-y. Alors. Le problème, c'est qu'il pouvait pas venir, pour jouer au Pont de Montvert, parce qu'ils viennent un peu partout, de Suisse notamment, et puis donc il a fallu convaincre un peu des partenaires. Donc c'est les Scènes Croisées de Lozère et puis le Théâtre de Mende, en fait. Hein. Je salue Antonin d'ailleurs en passant. Et donc ils disent nous on l'a pas vu, donc on veut d'abord aller voir. Donc ils vont le voir en Avignon parce que c'était programmé dans le Inn d'Avignon.
En 2019.
Ouais, ça devait être par là, en 2019. Et donc là, ils disent génial, banco. Manque de peau, c'est le succès du Festival d'Avignon cette année-là. Pour trouver un créneau de programmation très difficile, etc. Là-dessus, je remets la couche Covid qui fait qu'on annule une première fois la saison passée, quoi. Et ben là, les voilà, ce coup-là.
Ah, c'est sûr, il peut pleuvoir, neiger, venter. Ils seront évidemment au Pont de Montvert ce mardi. Savoir aussi, c'est quand même important. Donc, Romain Darol, qui est le comédien, interprète un comédien professeur qui est emporté par sa passion de Racine, un peu celle que t'as, toi aussi.
Ouais,
tu
te
retrouves un peu dans ce personnage?
Bah, écoute, c'est super, quoi, parce que c'est un seul en scène, quoi. Comme on dit en anglais, un one-man show. Il tient la scène, etc. Et il nous communique sa passion, quoi. T'as mis le vrai mot là-dessus. Moi, j'ai la passion du théâtre et entre autres de la tragédie et des Alexandrins. On pourrait parler de la musique des Alexandrins, toi qui es musicien, et lui communique ça au plus grand nombre, quoi. Et ils vont jouer également au lycée de...
Ouais, j'allais aborder le truc, c'est important pour les jeunes aussi qui se plongent dans les grands classiques, comme ça, on va dire.
Bah, disons que, par exemple, on te le balance au programme, de toute façon, donc démerde-toi avec ça.
36-15, t'as pas le choix.
Et tu dis, oh putain, merde, on va se manger des Alexandrins. Et bien lui, justement, son rôle, c'est de te le faire découvrir, quoi.
Allez-y, du coup, c'est ce mardi 15 à 19h à la Maison du Mont-Lozère au Pont de Montvert. C'est un spectacle accueilli par les Scènes Croisées et le foyer rural Passe-Montagne. Ce sera aussi le mercredi 16 février à 20h30 à l'espace des Anges de Mende. Oui, c'est ça. Tiens, toi qui es dans Passe-Montagne, est-ce qu'on a si on aurait la chance de revoir le festival Passe-Passe?
Bah écoute, bon, de toute façon, bon, passe-passe, c'est quoi? C'est différentes assos du village qui se regroupent à un moment pour faire un événement festif en extérieur, ou pas en extérieur d'ailleurs.
C'est vrai qu'il y a le passe-passe d'hiver qui est à la salle
polyvalente,
dans mon souvenir.
C'est jamais à l'initiative directement d'une seule association, donc c'est toujours un peu plus compliqué. On a quand même pris cher, hein, sur cette crise Covid. Là, il faut de la ténacité, il faut réveiller tout ça. Moi, je crois que de toute façon, on reste un village vivant, en fait, et que donc voilà, moi, je suis ouvert à toutes les propositions, et puis Passe-Montagne aussi, et puis je pense que on a de toute façon l'année dernière. Après, c'est pas toujours le nom, en fait, c'est pas forcément Passe-Passe, mais l'année dernière, par exemple, les Accrochés, le club de Grimpe a fait une manifestation, tu sais, puisque t'as...
Ouais, j'ai un vague souvenir du 10 juillet dernier. Et en plus de ça, les gens avaient vraiment une envie folle de faire la fête, c'était absolument génial.
C'était génial, hein. Mmh. Bah, c'était pas marqué Passe-Passe, si tu veux, mais bon, voilà, c'était le pont de Montvert qui se bouge les doigts, quoi, tu vois, c'est pareil, quoi.
Vivement que ça revienne. En tout cas, il y a un événement, c'est sûr, qui aura lieu, ce sera le 7 mai, puisque Passe-Montagne a 20 ans.
Ouais, en fait, 21 ans. Ouais.
21, pardon.
Ouais, mais non, mais c'est parce que...
Tu les fais pas.
Ouais, merci. En fait, si tu veux, c'était l'année dernière, on devait fêter les 20 ans, et puis bon, bah voilà, on a fait ce qu'on a pu l'année dernière, on a fait des trucs quand même, mais bon, il y a pas mal de trucs qui sont passés à la trappe. Et donc, on a décidé de remettre le couvert cette année. Donc, on profite des vacances de Pâques où on a un stage de cirque avec Kelsey, en fait, dans la deuxième semaine des vacances de Pâques. Kelsey, puis sans doute Clémence ou quelqu'un d'autre pour faire le tandem. Et donc, on a décidé avec Kelsey de le faire sous l'angle du cabaret. Donc les mômes vont répéter des numéros de cabaret et nous on va les les tuiler avec d'autres numéros qu'on essaye de pondre, des impromptus, des trucs un peu loufoques, des machins. Et puis en même temps des trucs qui font un peu référence à l'histoire de aussi culturelle et associative de ce village, quoi, qui est quand même pas ordinaire. Je pense à la fête de la myrtille, des trucs comme ça. Il y a toute une mémoire un peu à réveiller et que en plus c'est l'occasion de la, sans jouer un peu les anciens combattants ni regarder vers le passé, mais c'est toujours un moment de faire passer des choses à la fois pour ceux qui ne les ont pas connus et en même temps pour ceux qui les ont connus. Bah tu revois des, je sais pas, des photos, des tronches. C'est voilà, ça fait partie, c'est l'histoire de notre village en fait, quoi.
Fait bon vivre au pont de Montvert, c'est vrai. En tout cas, Phèdre, point d'exclamation à la conception, mise en scène et au texte, c'est François Gremaud. L'assistant de la mise en scène, c'est Mathias Brossard. La lumière, c'est Stéphane Gattoni. Et le comédien, c'est Romain Darol. Merci beaucoup, Philibert.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Phèdre, point d'exclamation, c'est mardi, ce mardi 15 à la Maison du Mont-Lozère, au pont de Montvert, et c'est à 19h. À très bientôt, on adore écouter tes histoires, Philibert.
Merci, à bientôt. Ouais.
Ciao. Et pour finir, si ça vous intéresse et pour réserver, vous pouvez toujours y aller puisque c'est co-accueilli par les scènes croisées, donc scènescroisées.fr. On se retrouve dans un instant avec le reportage d'Eli. On écoute d'abord Linda Lemay, une fois n'est pas coutume. Bon, d'ailleurs, c'est vachement bien sur scène, Linda Lemay. Le morceau s'appelle Les Souliers Verts. Saint-Valentin, Saint-Valentin, quand tu nous tiens.
Ça faisait deux petits mois d'amour qu'on se connaissait. Pas un seul accroc dans le parcours, c'était parfait. On a fini par se faire l'amour, on a choisi notre moment. On était mûrs, on était sûrs de nos moindres petits sentiments. J'étais sceptique, j'étais peureuse, t'as mis deux mois à remettre ma confiance boiteuse en bon état. J'avais baissé mon bouclier, cessé de nous prédire une guerre. J'étais en train d'emménager lorsque j'ai vu des souliers verts à talons hauts dans le garde-robe. Une paire de souliers verts aussi suspects qu'ignobles. Je les ai regardés droit dans les semelles quand ils m'ont sauté dans la face. Et ça fut la maudite femelle qui a dû les porter rien qu'en masse. Et ce fut un interminable face à face. C'était entre moi et la vieille paire de godasses. Et j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux déconcertés. Et j'ai senti la sueur couler le long de ma tempe. Ça faisait deux petits mois d'amour qu'on se connaissait. Fallait voir ça, la belle petite cour que tu me faisais. J'avais cessé de me protéger, depuis le cœur jusqu'à la chair. Je me sentais en sécurité jusqu'à ce que je voie des souliers verts à talons hauts sur la tablette. Une paire de souliers verts de femme ou de tapette. Je les ai regardés droit dans les semelles. Dieu merci, c'était pas ta pointure. Je suis allée mettre des gants de vaisselle pour m'emparer de ces petites ordures. Quand je suis arrivée dans la chambre en te les montrant, t'étais comme un caméléon sur le lit blanc. Je t'ai demandé à qui c'était. Je peux pas croire que t'as bredouillé exactement ce que je craignais. Que t'en avais aucune idée. Que t'étais le premier surpris. T'avais jamais vu ça avant. Au grand jamais, jamais de la vie, non. Sincèrement. Ben oui, ça pousse tes souliers verts. C'est comme une sorte de champignon. Une sorte de quenouille, de fougère. Ça peut être humide dans ta maison. C'est parfaitement compréhensible que ça apparaisse des souliers verts. Je pense même qu'il y en a des comestibles. Mais eux, ils poussent dans le frigidaire. C'est sûr que j'ai pas à m'inquiéter. Des petites chaussures de rien du tout. Le petit modèle de fin de soirée pour dame à quatre pattes à genoux. Qui sait si c'est pas le seuil d'esprit qui est venu t'octroyer des souliers. Comme les brassières en dessous du lit qui poussent chez d'autres miraculés. Bien sûr. Ça faisait deux petits mois d'amour qu'on se connaissait. J'allais quand même pas laisser ça nous séparer. Mais si tu veux bien mon amour, je vais me permettre un commentaire. pour toutes les jeunes filles au cœur lourd qui ont rencontré des souliers verts. Allez chercher vos gants de vaisselle, puis jetez-moi ça à la poubelle. Vous saurez pas le fond de l'histoire, et c'est peut-être mieux de pas le savoir. Fermez vos yeux, petite brebis, vous irez droit au paradis. Le ciel est rempli de petits anges qui ont jeté des souliers au vidange. Et puis je vous parie qu'en enfer, dans la basse-cour du vieux Satan, il y a plein de poules en souliers verts, il y a plein de maris innocents qui les ont jamais vus avant. Non, sincèrement, bien sûr.
Linda Lemay, les souliers verts, la Saint-Valentin sous le signe de la rupture, des mensonges et de la trahison, j'adore. On se retrouve, bah non, on va pas se retrouver d'ailleurs, on va partir directement sur le marché. Ellie, notre stagiaire, est partie à votre rencontre. Il a parlé alimentation entre autres, on écoute ça tout de suite.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous écoutez Radio Bartas sur le 107FM. Actuellement, je me dirige vers le marché de Florac pour poser aux habitants quelques questions à propos d'un sujet extrêmement important, la nourriture.
Tu as un peu froid?
Come bien, pero poco.
Moi, je mettrais bien du ketchup en plus. Un peu de sucre, non? C'est sympa.
Come poco. Pero come bien.
Est-ce que tu as une recette qui là te vient en tête, un truc qui te plaît, que tu as envie de partager avec Radio Bartas et ses auditeurs?
Un plat que j'aime bien faire, tu vois. C'est genre, tu vois, un riz au curcuma avec un peu de cumin, de l'ail, de l'huile de ail, persil, raisin sec, noix de cajou. Et ça, je kiffe. Tu fais carottes, oignons, ah, tu vois, tu fais rissoler ouais. Carottes, oignons, après tu balances ton riz. Après, tu mets un peu tes épices, tout ça, tu mélanges bien avec de l'huile d'olive, histoire de le pilafer. Et ensuite, tu balances ton eau une fois que tu as mis tes raisins secs, ta noix de cajou, etc. Voilà.
Tes frites des choux-fleurs, après tu mets avec du tahine, de la coriandre et des graines, soit des graines de tournesol ou des pignons, des trucs comme ça. Et après tu fais une petite sauce avec du vinaigre ou de la mélasse si jamais t'en as sous la main. Mélasse de pomme, c'est très bon. Et voilà, c'est délicieux. Et ça met un peu de soleil.
Alors ouais, j'ai une super recette, mais ça va être dur de la dire comme ça. Super recette de gâteau aux agrumes. Et elle est vachement bonne parce qu'en fait, bon, c'est un gâteau un peu simple, c'est un cake aux agrumes, mais la nuance, c'est qu'on fait ensuite, on met les zestes à l'intérieur du gâteau, et ensuite on fait un sirop avec des jus, et on imbibe le cake du jus des fruits. Et du coup, c'est vachement bon parce que ça ne fait pas un cake sec, tu vois, ça fait un cake bien imbibé. En fait, tout le monde adore ça quand j'en fais, donc j'imagine que c'est très bon, d'ailleurs, moi je l'adore. Voilà, donc des oranges, des citrons. Et puis voilà, puis les trucs classiques. Bon, alors après, c'est bien parce que c'est un gâteau qu'on peut enrichir à souhait, on peut mettre de la crème fraîche, du beurre, en fait, tout ce qu'on veut. Voilà, en plus, mais meilleur, c'est quand même, il faut bien reconnaître. Voilà.
Le croque-monsieur à la béchamel. Une petite béchamel avec des carottes râpées, mais très finement hachées après, mélangées à la béchamel. Un peu d'herbe de Provence, des petits bouts d'olive noire dans ta béchamel. Et un peu d'ail confit revenu avec un peu de miel. Tout ça par-dessus les croque-monsieur fait bien sûr avec mes pains de mie, hein, parce que voilà, c'est les meilleurs. Et voilà, du bon jambon. Et puis après, assaisonné à sa sauce. Qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois au poireau? Poireau fondu, une petite fondue de poireau, c'était délicieux. Après, il y a quoi? Bon, pour les amateurs chèvre-miel, c'est la tuerie avec une petite salade. C'est parfait.
Moules frites, ce soir je vais manger moules frites, donc les moules, ouais, bah, après tout le monde sait faire ça quoi, je pense. C'est assez basique.
Mais chacun
je sais pas, on lave les moules, on les met dans la cocotte, on met de l'ail, un peu de tomate. Bon, j'en mets pas parce que c'est pas de saison, puis j'en ai pas. On met de l'oignon, on fait revenir tout ça, après on enlève les moules, on fait une sauce à part, quoi, crème fraîche, vin blanc. Et vin blanc, on les met avec les moules, voilà, vin blanc et tout. Et après c'est parfait, on mange ça avec des frites, bah forcément des pommes de terre maison, donc frites. Et c'est parfait.
Il y a des choses qui sont vraiment toutes simples à faire. Quelque chose que j'aime bien, c'est mettre un morceau de fromage sur une tranche de pain, passer ça au micro-ondes, et notamment avec, voilà, je vais me permettre de, c'est pas de la publicité, mais de parler de ce qui pour moi est le meilleur fromage du monde, parce que je suis originaire du nord de la France, c'est le maroilles. Un petit morceau de maroilles sur une tranche de pain, on met ça au micro-ondes, un tout petit peu de rouge avec, et c'est formidable, c'est tout simple, et ça permet vraiment de se régaler. Il y a des choses très très simples qu'on peut faire, et voilà, quoi, simplement.
Ouais, la tagine, c'est pas mal. Et ben, tu mets des légumes, des épices, tu fais t'essayes de faire des beaux petits rangs, plein de légumes qui montent en pyramide. Et puis à chaque couche, tu mets un peu d'huile d'olive, un peu d'épices et du citron confit, très important. Des raisins secs, un peu de pois chiche, ouais, des tomates séchées. Et après, surtout, le secret, c'est de ça cuise longtemps, pendant 3 heures peut-être, mais vraiment pas très fort.
Du sanglier à l'orange. Il faut toutes sortes de carottes, oignons, ail, tout ça, céleri, tout. On le fait revenir, après on le mouille avec du vin. Quand ça boue, on le flambe au cognac. On fait revenir la viande de sanglier. Quand elle est bien revenue, on met toute la marinade. Et après, on met du concentré de tomate et des écorces d'orange. Et voilà, on fait cuire. Une heure à la cocotte minute.
Et c'est très bon.
Et c'est très bon. Elle aime bien.
Une chose qui s'appelle Tocinito de Cielo. Ça, c'est un dessert que tu fais avec le jaune de l'œuf. C'est ça? Et sucre, et après la cuire pas mal de temps au four. Mais c'est un dessert. Et ça me revenir à mon enfance parce que ma maman a préparé ça.
Juste du jaune d'œuf et du sucre.
Et du sucre. C'est ça. Mais elle prend beaucoup de temps. Il faut le faire, ouais.
Beaucoup de temps pour remuer.
Oui, ouais, il va se fondre complètement et après tu vas le finir au four.
J'ai trouvé une recette d'échine de porc à l'andalouse. Alors c'est très simple, tu fais revenir ton échine grossièrement coupée en cubes. Tu vas faire revenir dans un peu d'huile d'olive, 800 grammes à peu près. Tu rajoutes 800 grammes de patates en petits morceaux ou en tranches pas trop fines. Tu jettes par-dessus 100 grammes d'olive noire. Que je dise pas de bêtises, je crois que c'est... Ah non, pardon, un verre de Porto, 15 centilitres de Porto, un petit peu de concentré de tomate, genre 25 centilitres, et puis sel et poivre, et c'est tout, tu laisses mijoter une heure et demie. J'ai suivi la recette pile poil, comme il disait, donc moi j'ai un poêle à bois, donc c'est facile de laisser mijoter, ça coûte pas cher en gaz, et voilà, et on s'est régalé.
Là tu m'étonnes.
Une recette un peu typique de Lozère, c'est une tarte au bleu et au poireau. Donc en fait, il faut faire d'un côté une béchamel, d'un autre côté, il faut faire fondre du bleu dans de la crème fraîche. Ensuite, on mélange le tout et donc on fait blanchir des poireaux. Et sur une pâte brisée ou feuilletée, donc on met le mélange béchamel, crème au bleu et poireau et on fait cuire, voilà. Et par contre, avant de la déguster, il faut la laisser un peu refroidir, il faut le temps que la béchamel se fige. Voilà, sinon c'est trop coulant. Mais c'est avec une petite salade verte, c'est très bon. On peut même y mettre des noix dedans.
Ça s'appelle la salade liégeoise.
La salade liégeoise,
c'est les pâtes à drissoler. Puis avec des petits lardons frits. Et qu'est-ce qu'on rajoute aussi? Des haricots. Tu fous tout dans un grand wok comme ça ou une grosse poêle. Tu mets un peu du vinaigre à la fin quand tout a bien grillé, bien pristouillé, c'est bien croustillant, crunchy croustillou. Du vinaigre blanc ou du vinaigre, n'importe quel vinaigre, du balsamique, ça peut le faire aussi, juste histoire de relever un petit peu quoi. Ça peut aussi le faire avec du vinaigre. Du vinaigre aussi, tout à fait, ouais. Même du vinaigre de tomate, ça existe. Et voilà, très sympa à préparer, hein, trois ingrédients, tu fous le tout à la poêle, une fois que ça grille, c'est prêt, c'est bon. Et c'est crunchy. Ah. Tout le monde aime quand c'est crunchy croustillant.
Oh, mais c'est trop bon.
Qu'est-ce que vous pensez en fait de la façon dont on consomme la nourriture de nos jours ?
L'alimentation est en déclin, hein. On se rend compte de plus en plus que on mange, on peut le dire, de la merde, malheureusement. Mais c'est bien, les gens s'en rendent compte, ça se voit sur les marchés. De plus en plus de clientèle, les gens ont envie de se rapprocher du local. Mais bon, il y a toujours les grandes concurrences, les Intermarchés et tout, mais bon, on travaille pour que ça réduise. Et puis ouais, les gens se rendent compte que de la bonne nourriture, un bon corps après, quoi, normal. Nourriture saine, un corps sain, cela va de soi.
Et donc un esprit
sain. Et voilà, ça encore mieux, quoi. Et puis oui, et puis aussi de se rendre compte que produire ses propres légumes, c'est magique aussi. Je pense que l'ère Covid aura au moins aidé à ça, que les gens auront pris le temps de jardiner un peu. Même en ville, petit à petit, ouais, des assos montent. Pour avoir au moins des petits jardins mis à disposition des citadins, ne serait-ce que des petits marchés locaux en ville aussi, ce qui est assez rare quand même. Mais ouais, un peu de tout, quoi.
Mais déjà, c'est bien sûr, on fait ça, c'est pour redécouvrir forcément la bonne alimentation, quoi, tout ce qui est... moi, je vends des poulets, c'est pas des poulets élevés en batterie, c'est pas des poulets qui sont vaccinés, ce ne sont pas... c'est du plein air, on fait en sorte... ils ont des bâtiments assez spacieux, ils sont pas trop serrés dedans, quoi. Je veux dire, c'est... redécouvrir la bonne nourriture aux clients, aux gens qui achètent. Donc ça, c'est vachement important, parce que bon, aller en... je veux pas pourrir les grandes surfaces, mais aller en grande surface acheter un poulet qui coûte, 3 € le poulet. Bon, voilà quoi. Faut pas. Moi je les vends 20 € le poulet. Y a une sacrée différence et bon, il y a déjà un problème. Pour moi, il y a un problème. Un problème d'élevage, un problème à quelque part, quoi. Voilà. Il y a une question aussi d'âge de volaille. On les tue pas. 6 semaines après la naissance, donc ce qui est quand même assez, je trouve assez grave. Donc voilà, ouais, c'est un tout. Voilà, on gagne aussi, c'est pour nous, on gagne notre vie, mais aussi pour les autres. J'ai vu qu'il y avait un bon débouché et faire une bonne qualité. Quand j'entends mes clients qui viennent et qui me disent, ou les nouveaux, punaise, j'ai l'impression de manger le poulet de notre enfance. Voilà, ça c'est pour nous, c'est vachement important. Ouais. Non, voilà.
Moi, sur un plan personnel, je mange très peu de trucs tout préparés. Je cuisine tout, mes trucs avec mon jardin, mes produits. J'ai une alimentation relativement saine, on va dire. Mais bon, c'est facile ici de le faire. Et puis moi, j'aime bien cuisiner. C'est mon truc.
J'ai nos achats dans les petits commerces de proximité et sur les marchés plutôt que dans des grandes chaînes alimentaires peut-être. C'est peut-être préférable de faire comme ça, d'essayer de consommer local. Voilà, ça c'est important.
Les bons produits. Oui, parce que là, tiens, en Lozère, tu peux pas sortir du kebab allemand ou un truc comme ça. Autrement, c'est pas possible. Je suis 1 € plus cher, tu as vu, mais c'est autre chose. Je suis à 6,50 ou 5,50. Et voilà.
Ma bouffe, moi, c'est non préparé. Ça veut dire que j'achète jamais de plat préparé. Je crois que ça fait... ça doit faire 15 ans que j'ai pas acheté une boîte préparée, c'est-à-dire type cassoulet, ravioli, pas une pizza emballée, prêt, qu'elle soit sous vide ou surgelée. Enfin voilà, je dirais peut-être même plus que ça, plus longtemps que ça. J'achète des légumes, j'achète la viande, j'achète les produits secs, les féculents et tout, et c'est moi qui cuisine. Voilà. Enfin, moi ou ma compagne, mais ça dépend, mais voilà, ça fait une éternité qu'on n'a pas acheté un truc.
En gros, le fait de préparer soi-même, c'est super important.
Déjà, ça n'a pas le même goût.
Non.
Ça n'a pas le même goût. J'ai jamais vérifié. Je crois que ça revient moins cher, mais je suis même pas sûr. Mais en tout cas, ça n'a pas le même goût. On sait un peu mieux ce qu'on a dedans. En tout cas, on sait ce qu'on a mis comme produit et on sait qu'on n'a pas tous les produits ajoutés qu'on a dans les plats préparés.
C'est sûr. Voilà.
C'est sûr, ce qu'il peut y avoir dedans, c'est ce que des gens ont mis.
La viande n'est pas forcément meilleure que celle qu'on aura dans un plat cuisiné. Par contre, tous les conservateurs et autres, on les a pas.
Ouais, ouais. Surtout si en plus la viande, tu l'as prise au marché. Bah, merci beaucoup.
Oui, bah de rien.
Et puisqu'on parle d'alimentation, on en parle aussi avec Cynthia de la Confédération Paysanne mercredi dans la matinale. Pourquoi ? Parce que la Confédération Paysanne organise pas mal d'événements, notamment le week-end prochain. Tout ça, ce sera dans la matinale de mercredi. Hein. Merci Eli.
Merci à toi Ben de m'avoir accueilli et d'avoir passé ce micro-trottoir.
C'est la fin de cette matinale, on se retrouve mercredi. Merci Corto.
Eh ben de rien, hein. Bonne journée à tous.
Mercredi, tu renverras pas le générique.
Le générique.
Tu sais, comme t'as fait au début, tranquille quoi.
Oh, on verra.
Ce sera la surprise. Merci à toutes et tous de nous suivre. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. On va se quitter en humour, puisque c'est à Saint-Valentin avec Eric Toulis, que je vous conseille d'aller voir sur YouTube. C'est vraiment super ce qu'il fait. C'est un bon comédien, un bon chanteur. La chanson est une espèce de parodie. Elle s'appelle L'amour. Portez-vous bien. Donnez-vous-en de l'amour. Ça fait toujours du bien. Portez-vous bien. Mercredi. Ciao.
Salut bébé, c'est pour toi que je chante ce soir. Cette chanson d'amour, si tu veux, on se verra dans ma loge après. Je t'offrirai un bounty. L'amour, c'est comme une alouette qui s'envole au printemps en direction du nord. L'amour, c'est comme une fleurette de rosée le matin aux aurores. Ah oui, l'amour, c'est comme la belette cachée dans son terrier tout l'hiver. Il s'endort. L'amour, c'est comme une estafette.
Ah, j'aime bien celui-là.
Même quand c'est tout rouillé, parfois ça roule encore. Alors je te pose cette question, on verra bien si tu me réponds. On verra bien si je suis le seul.
Je fais ce que je veux avec une guitare, moi.
À trouver que l'amour se fout de ma gueule. Briquet, combien y a-t-il de chansons, lesquels on se dit je t'aime. Réponds l'amour, l'amour répond. Réponds-moi l'amour, je n'entends pas tout. Qu'est-ce que tu me dis?
T'as le fait, hein?
Oh, je pense. Quand je pense qu'il y en a qui s'emmerdent avec des orchestres. Franchement.
Amour, c'est comme la roulette d'un dentiste vicieux qui joue avec tes nerfs. L'amour, c'est comme les cacahuètes. T'as vu? Quand on mange une, il te faut la boîte entière. Oh oui, l'amour, c'est comme une. Pendant t'es tout content, juste après t'es moins fier.
Tu vois que ça passe quand même.
Oh l'amour, c'est comme une mobilette volée à vie reflet et retrouvée à Nanterre. Ouais, optique 3000.